Non, je ne m'appelle pas Elisabeth. Mais j'avais demandé si je pouvais juste partager quelque chose avant la prédication. C'est quelque chose que j'ai reçu pendant la louange et ça me semblait suffisamment important pour que ça soit partagé. J'ai oublié ma Bible en papier aujourd'hui et ça m'a pris deux fois plus long de le trouver dans mon téléphone. Donc c'est pour ça que je n'ai pas sauté sur l'occasion pendant la louange. Ça vient des Éphanies. Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de vous. Vous ne craindrez plus de malheur. En ce jour-là, on dira à Jérusalem, « Sois sans crainte, Zion, ne baisse pas les bras, car l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, un guerrier qui te sauve. Il sera transporté de joie à ton sujet, et il te renouvellera dans son amour pour toi. À cause de toi, il poussera des cris de joie et il exultera, tout comme au jour de fête. Je t'enlève aujourd'hui la honte que tu portes. À cause de toi, il poussera des cris de joie, il exultera. » Et puis il dit, j'enlève la honte. Et j'avais juste l'impression qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un, peut-être plusieurs personnes, qui ont besoin d'entendre ça. Pour le Seigneur, quand il te regarde aujourd'hui, pour lui, c'est un jour de fête. Parce qu'il est tellement content. Donc, ne sois pas triste. Ne sois pas abattu. Parce que le Seigneur, il te voit, il dit, ça c'est la fête. Ça c'est la fête. Je suis contente de te voir.
Merci Sandy pour ce partage. Bonjour à toutes et à tous. Et ce qu'on va faire ce matin, c'est qu'on va continuer à lever les yeux vers notre Seigneur. Le message que le Seigneur m'a mis dans le cœur pour ce matin, c'est l'espérance de la vie éternelle. Et je veux vraiment en parler avec joie, avec sérénité, avec paix, malgré tout ce qui se passe autour de nous dans le monde. C'est vraiment un message d'encouragement que le Seigneur m'a donné. Et donc, recevez vraiment avec bienveillance, amour, ce message d'encouragement sur l'espérance de la vie éternelle. C'est vrai que j'ai oublié d'enlever mon masque. Merci, Fred. On est tellement habillés, on prend vite les habitudes au final. Hein. Et finalement, je vais faire appel à votre mémoire. Si vous vous rappelez, il y a quelques temps, on a parlé ensemble, on a évoqué ensemble l'espérance que nous pouvions avoir sur les promesses ici-bas, sur notre chemin ici-bas. Mais c'est pas tout. Il y a non seulement une espérance pour les choses d'ici-bas, pour notre vie ici-bas, mais on a l'espérance suprême, l'héritage suprême de la vie éternelle en Jésus-Christ. Ce matin, tu peux regarder ton voisin, tu peux dire « Tu as la vie éternelle en Jésus-Christ. » Amen. 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 Mais finalement, en fait, le Seigneur nous appelle, même si nous sommes encore ici-bas, nous ne savons pas quand chacun rejoindra le Seigneur, ni quand le Seigneur reviendra. J'ai un scoop aujourd'hui, je ne sais pas non plus. Quand le Seigneur reviendra, personne ne le sait. Nul ne sait quand, nul ne sait l'heure. Mais ce que nous savons, c'est que nous devons être prêts et que nous devons lever la tête vers le Seigneur pour regarder à l'espérance qu'il a en nous. Mais finalement, cet aspect de la vie éternelle, il faut se l'avouer, c'est quand même très subtil en fait. C'est quelque chose pour là-haut, on n'y est pas encore. La Bible nous en parle et finalement on nous en parle dans les Épîtres, dans l'Apocalypse. Tous les livres de la Bible parlent, beaucoup de livres en parlent, mais finalement ça reste très abstrait pour nous. Et je suis convaincue que ce matin, le Seigneur veut nous fortifier dans cette espérance que nous pouvons avoir en la vie éternelle, il veut nous encourager. Et finalement, on va faire un peu comme quand, vous savez, quand on choisit notre lieu de vacances. Quand on choisit notre lieu de vacances, on aime bien regarder en disant « Ok, on prend cette maison-là, on regarde les pièces, on regarde ce qu'on aura, quel équipement, est-ce que je dois prendre des draps, est-ce que j'ai une belle cuisine, est-ce que j'ai assez de pièces pour accueillir toute ma famille ou mes amis ?» Et on est là comme ça, on regarde, on décortique, et puis on s'encourage, on se dit « Allez, encore un mois de boulot, et après ça va aller, on sera en vacances, youpi ! Allez, encore 3 semaines, 2 semaines, 1 semaine, et après, et on repasse, les images, on se dit alors, il y aura une piscine, pas une piscine, on sera près de la plage. Mais en fait, on va faire un peu pareil ce matin. On va regarder ce qui nous attend. Finalement, on parle de l'espérance de la vie éternelle, mais qu'est-ce que la vie éternelle en Jésus-Christ ? Vous êtes prêts ? On y va ? Ouais. Donc, qu'est-ce que la vie éternelle en Jésus-Christ ? Paul nous dit que c'est le fait de demeurer pleinement dans la présence de Dieu. Il nous dit « Nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur ». Souvent, il y a des courants dans les églises où parfois, en fait, des gens pensent que quand on meurt, on est comme dans une salle d'attente, puis on doit encore attendre plein de choses qui se passent pour vraiment aller dans la présence de Dieu. Sauf qu'on va prendre Apocalypse, chapitre 6, versets 9 à 11, et ça rejoint les propos de Paul. Paul dira plusieurs fois qu'il aimerait rejoindre le Seigneur, qu'il voudrait être auprès du Seigneur. Et dans Apocalypse 6, versets 9 à 11, il est dit, quand, donc c'est Jean qui parle, qui a été ravi en esprit, Dieu lui a montré comment ce serait plus tard pour nous annoncer ces choses. Et donc il est dit, il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Une rampe blanche, fut donnée à chacun d'eux et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Ce qui veut dire que les âmes, tous ceux qui sont morts en Christ, ou les bébés, les enfants, ceux qui n'avaient pas encore la conscience de choisir, sont dans la présence de Dieu. Tous ceux qui nous ont précédés sont dans la présence de Dieu. Et quand nous mourrons, ou si Jésus revient avant notre mort, nous serons dans la présence de Dieu. Il n'y a pas de salle d'attente. Les âmes sont sous l'autel. Les âmes sont dans la présence de Dieu. Si je meurs, je suis dans la présence de Dieu grâce au sacrifice de Jésus-Christ, grâce au sang versé, grâce à Jésus mort, ressuscité, élevé à la droite du Père, je suis dans la présence de Dieu. On n'est pas dans une salle d'attente, on n'est pas dans un entre-deux. On demeure dans la présence de Dieu. Une présence de Dieu dans laquelle c'est complet, il y a une plénitude parfaite. Et la parole de Dieu nous dit dans Apocalypse, chapitre 21, verset 4, il nous est dit qu'il n'y aura plus de deuil. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus, plus de deuil, plus de cris, plus de douleur, car les premières choses auront disparu. Toutes nos douleurs, tous nos deuils, tous nos cris, toutes nos larmes versées, le Seigneur les essuiera. Il les essuiera de notre visage. Plus de cris. Déjà, on enlève les deuils, les cris, les souffrances, les insatisfactions. Ce qui vient, nos douleurs dans nos corps, on parlait tout à l'heure de Nathalie, les hernies, tout ça, tout notre corps qui est faillible, qui se casse. Et quand on vieillit, c'est encore pire et ça fait mal. Et notre corps s'altère d'année en année. Mais là, plus rien. Une joie parfaite. Il essuiera toute larme. Et vous savez, pour certains, je vous ai déjà raconté ce témoignage, mais en 2017, alors que nous avions fait un jeûne et prière, et on était à la fin du jeûne et prière, c'était un dimanche, et je me souviens, le Seigneur commençait à me visiter puissamment au milieu de l'assemblée, et après, Josine, elle vient me voir à la fin du culte, elle me dit « Élise, ça te dit de venir à la maison et on continue de prier ». Et donc, je me retrouve chez Josine, et on va se mettre à prier, et puis je me souviens, on se tient la main comme ça, et je me souviens des paroles, on disait « L'Éternel est notre berger, il prend soin de notre âme, il est là avec sa houlette et son bâton ». Et on a été ravis en esprit. La puissance de Dieu est descendue. Et c'est comme Paul le dit dans la Bible, on ne sait pas si on est dans le ciel ou on est encore sur la terre. J'avais pleinement conscience de tout ce qui s'est passé, mais notre esprit était complètement avec le Seigneur. Et le Seigneur, il va me consoler par rapport aux épreuves sur la maternité dont je vous avais parlé début novembre. Mais une consolation, des fleuves d'eau vive qui s'abattaient. Et le Seigneur me disait, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Je criais, toute cette douleur qui était en moi, je criais même un moment de, cette douleur partait de moi. Et l'Éternel me disait, je te console. Et le Seigneur m'emmenait comme ça et il déverser. La parole dit que la parole de Dieu, c'est des fleuves d'eau vive. Et quand on sera dans l'éternité, ce sera pleinement ces fleuves d'eau vive, cette plénitude. Et le Seigneur me consolait, me renouvelait, me fortifiait à nouveau. Et le Seigneur me disait, je fais toutes choses nouvelles et j'étais consolée là où je pensais ne jamais pouvoir être consolée. Et ce matin, je veux vraiment insister sur cela et je le dis avec bienveillance et amour. Et je vous l'ai dit, et des gens m'ont vu mais crier de douleur, m'ont vu pleurer de douleur et on pleure de douleur ici-bas. On crie de douleur ici-bas et je sais que je parle à des hommes et des femmes, à des jeunes gens, à des jeunes filles où on a tous été éprouvés. D'une manière ou d'une autre, on a tous un jour crié de douleur. On a tous fait face à des deuils qui ont été pour certains dramatiques, traumatisants. Et donc j'en parle vraiment avec bienveillance et amour pour dire la consolation de Dieu est notre force et notre espérance suprême parce que quand on sera là-haut, eh bien ce sera parfait. Plus aucune douleur. Il commence l'œuvre ici-bas, Saint-Esprit appelé Consolateur. Et dernièrement, je disais à Dieu, mais d'un côté, pourquoi tu n'as pas parlé du Saint-Esprit en disant Monsieur Funky, Monsieur Joie, l'appeler en fait. Parce que pourquoi le Consolateur? Et le Seigneur me disait, parce que vous voyez mon œuvre, cette œuvre que je commence ici-bas et qui sera rendue parfaite, qui sera rendue dans sa plénitude complète là-haut. Amen. Nous savons que nous avons un consolateur. Nous savons aussi, dans Jean, il est dit que Jésus dira « Je m'en vais vous préparer une demeure auprès du Père ». Et la parole de Dieu dans Apocalypse 21, verset 10, nous parle de cette nouvelle Jérusalem, de cette nouvelle ville. Il est dit, il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Et ensuite, il y parlait des murailles d'or, des pierres précieuses qui seront sur les murailles dans la ville. Il est parlé d'une place et d'un fleuve d'eau vive qui jaillira. Il est parlé d'un arbre de vie qui donnera des fruits chaque mois, chaque saison. Chaque mois, il y aura des fruits. Ce qui nous attend là-haut est majestueux, ce qui nous attend là-haut est puissant et quelque part on a même du mal à l'imaginer. Jésus lui-même dit qu'il ne boira plus de ce vin jusqu'à ce qu'il en reboive avec nous lors des noces. Il est dit qu'il nous donnera à boire, que l'on mangera. Jésus, quand il se présente aux disciples, après, quand il est ressuscité, il se présente aux disciples avant d'être glorifié. Et en fait, ils vont lui donner du miel, il va manger un peu. En fait, on parle des âmes et donc on a l'impression qu'on est, vous savez, comme les ballons d'hélium qui... D'un coup, on gonfle, puis on part dans les cieux, et puis on est comme une masse, une nuée comme ça volante. Mais non, c'est parlé de robe blanche, de nourriture. On boira, on mangera, on sera rassasié de tout, avec plus aucune insatisfaction, dans une plénitude, une joie complète. Amen. Et notre identité, Apocalypse chapitre 2, verset 17. Ce que nous sommes ici-bas a un sens pour là-haut. Ce que nous sommes ici-bas, notre identité, ce que nous sommes, ce n'est pas un hasard, ça a un sens pour là-haut. La parole de Dieu nous dit que celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si c'est celui qui le reçoit. Et dans la Bible, quand on parle de nom, c'est un nom qui fait référence à notre identité, à ce que je suis. Antonia, tu auras un nom. Moi, j'aurai un nom. Christiane aura un nom. Fred aura un nom. Maman, tu auras un nom par rapport à notre identité. Matt, tu auras un nom. Édouard, Stécie, chacun, on aura tous un nom par rapport à notre identité. Et si vous vous souvenez de la prédication de Fred, Fred nous disait « L'ennemi nous appelle par nos péchés, mais le Seigneur nous appelle par notre nom. » Et notre nom a un sens pour le Seigneur jusque dans l'éternité. Amen. Nous sommes, comme Sandy l'a dit, nous n'avons pas à avoir honte de ce que nous sommes ici-bas. Ça a un sens. Et le Seigneur va nous donner un caillou sur lequel un nom est noté, qui fait référence à ce que nous sommes. Amen. On aura une nouvelle intelligence, une intelligence superbe. On comprendra tout. Enfin, tout le mystère sera levé. 1 Corinthiens, chapitre 13, versets 9 à 12. J'aime ce passage. Nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. C'est une réalité. On a un entendement, on a des limites à notre intelligence. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir. La Bible, c'est un miroir, ça nous renvoie des choses d'une manière obscure. Mais un jour, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors, et ça c'est, je trouve magnifique, je connaîtrai comme j'ai été connu. Paul est en train de dire... Autant le Seigneur m'a connu, tout, rien n'était caché devant sa face. Il pouvait sonder jusqu'au plus profond de mes entrailles. Un jour, je le connaîtrai comme j'ai été connu. Plus de limites à notre intelligence. Moi, j'ai hâte. Parfois, je fais des songes où Dieu frappe mon entendement et j'ai l'impression que, vous savez, que d'un coup, mes neurones, elles sont multipliées et je comprends plein de trucs. Et pour finir, quand je me réveille, bah, je suis dans mon corps et parfois j'oublie une partie de mes songes. Alors je suis dégoûtée. Alors maintenant, j'ai le réflexe, quand je suis en pleine nuit, je prends mon iPhone et je note tout. Mais il y a des choses qui nous restent cachées, qui sont partielles. Et un jour, tout nous sera révélé face à face. Et nous connaîtrons notre Sauveur, Seigneur, face à face. Je le connaîtrai comme il m'a connu. Amen. Nous serons dans un corps glorifié. Nous chanterons la louange ici-bas à son sens. Nous continuerons également là-haut. Mais nous ne ferons pas que ça. On ne sera pas juste là à faire « Alléluia ». On est parlé d'une ville de serviteurs. On va faire des choses magnifiques qui dépassent notre entendement. Et tout a un sens. Et nous louerons l'Éternel. Et quand Dieu m'a ravie en esprit, à un moment donné, il me dit, maintenant, je vais te joindre au cœur des anges. Et je me suis mise à louer le Seigneur dans un parler en langue d'une puissance, mais incommensurable. Mes mots, même quand je vous le décris, c'est tellement faible par rapport à ce que nous allons vivre. C'est tellement faible. La louange ici-bas a un sens. On continuera là-haut. On louera le Seigneur. Les anges sont réels. Je voyais pas les anges, mais j'étais dans un cœur. Le Seigneur me dit, je te joins au cœur des anges. Ce que la parole de Dieu dit, et comme Fred l'a dit, là, ça nous réchauffe. On sait que c'est vrai. On sait que c'est véritable. On sait que c'est certain. Et tous ceux qui nous ont précédés ne sont pas seuls abandonnés dans une salle d'attente. Ils sont dans le Seigneur, avec lui. Amen. Et le Seigneur nous parle aussi, et ça on aime bien en tant qu'humain, des récompenses. Apocalypse 11, verset 18, mais on va voir que Dieu est un Dieu juste et qui prend soin de tout le monde. Il dit, les nations se sont irritées et ta colère est venue et le temps est venu de juger les morts, de récompenser la parole de Dieu le dit, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands. Le Seigneur va récompenser nos œuvres ici-bas, tout ce qu'on a fait pour lui dans le service, tout ce qu'on a fait, le Seigneur récompensera les petits et les grands. Mais on va mettre ça, ces récompenses, sous le prisme d'autres versets. Et il faut savoir que la parole de Dieu nous parle plus, à plusieurs endroits de récompense. On nous parle de récompense sur le fait de savoir aimer nos ennemis. Vaste sujet, aimer nos ennemis, c'est difficile. Mais Dieu nous dit qu'on aura des récompenses. Dieu nous parle de tous ceux qui sont morts, persécutés. Vous pourrez retrouver dans Matthieu 5 et Matthieu 6. De tous ceux qui sont morts, persécutés, qui ont souffert énormément pour l'œuvre de Dieu. Ils auront des récompenses parce que c'est un Dieu juste. Mais dans Apocalypse, le Seigneur nous dit, petits et grands, selon l'œuvre que chacun aura à faire ici-bas, a fait ici-bas. Moi, j'ai une œuvre à accomplir. Fred, Pascaline ont une œuvre à accomplir. Anto a une œuvre. Je ne peux pas accomplir l'œuvre de Fred et Pascaline, je ne peux pas accomplir l'œuvre d'Anto, et ils ne peuvent pas accomplir ce que Dieu me demande à moi. Je dois faire moi avec mes talents. Chacun, nous devons faire avec nos talents, avec ce que nous sommes. Et devant Dieu, Dieu récompensera en fonction de ce que Dieu nous avait aussi donné comme capacité, petit ou grand, ministère visible ou pas visible. Et qu'on ne s'y trompe pas. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 8 à 13. Nous serons récompensés que si nos œuvres ont été faites dans l'amour et la vérité. Ce matin, je peux prêcher, on peut enseigner, on peut exercer nos ministères, on peut faire la louange, le ménage, l'accueil, on peut intercéder, on peut donner nos biens. 1 Corinthiens 13 nous dit, Paul dira, on peut tout donner, je peux donner ma vie. Mais si je n'ai pas l'amour, ça vaut rien, zéro. On aura pu se lever tôt, se décarcasser. Mais s'il n'y a pas l'amour dans nos cœurs, s'il n'y a pas la vérité, c'est pas fondé en Christ, ça vaudra zéro. Et ça nous met d'aplomb, le wow d'Antonia. Non, et c'est vrai, ça nous donne de sonder nos cœurs jour après jour. Quand on est dans l'œuvre, dans le ministère, quand je prêche ce matin, suis-je en train de vous parler avec amour, avec bienveillance? Quand on enseigne, quoi que nous fassions pour l'œuvre de Dieu. Donc 1 Corinthiens 3, versets 8 à 13. Il est dit, celui qui plante et celui qui arrose son égo. Mais là, Paul dira, il y en a un qui plante, il y en a un qui arrose. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. On a tous à œuvrer selon ce que Dieu nous a donné, selon nos capacités. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Donc à la manière dont on œuvre, dont on construit. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement, donc là, avec des matériaux nobles, de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, donc là, après, on passe au contraire, justement, sur des matériaux moins précieux, bois, foin, chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée le jour... car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu. L'or est puré, tient dans le feu. Du bois, du foin, du chaume, ça crame. Plus rien. Le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. On peut cacher beaucoup de choses aux hommes, mais on ne cache rien à Dieu. Dieu connaît nos cœurs, Dieu connaît mon cœur. Il sait pour chacun d'entre nous. Et Dieu est là pour nous aider à aimer, à faire les choses dans la vérité, l'amour. Mais finalement, tout ce qui est question de comparaison, de rivalité, de tirer la couverture, de jalousie, d'envie, ça vaut rien. Rien du tout. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous aide à œuvrer dans l'amour, cette fraternité, dans cette vérité sainte qui révélera, qui donnera ses récompenses. Mais la parole de Dieu ne nous dit pas ce que ce sera comme récompense. On ne sait pas. Quid ? Point d'interrogation. On le sera quand on sera avec lui. Amen. Pas de jalousie, pas d'envie, pas de compétition, parce qu'il y a une récompense à œuvrer dans l'amour et dans la vérité. Mais finalement, ces choses, eh bien, elles sont certaines pour nos vies, non ? On parle d'espérance. Et l'espérance, on en parlait la dernière fois, le mot espérance dans le langage courant français, c'est peut-être que oui, peut-être que non. Sauf que dans la Bible, l'espérance en Jésus-Christ, c'est certain. Il y a une assurance, une assurance. Et l'Épître aux Hébreux, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dira, et là on passe au point vraiment de saisir cette espérance. Les disciples, je me souviens, on en parlait souvent avec Anto, de dire, mais les disciples ont saisi l'espérance de Christ, où Paul était capable de dire, j'aimerais aller là-haut, j'aimerais être avec le Seigneur. Et donc Hébreux 6, versets 17 à 19, il nous est dit, c'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide, une encre qui pénètre au-delà du voile. Amen. Au-delà du voile. L'espérance de la vie éternelle, c'est l'encre. C'est une encre pour mon âme qui me fait pénétrer au-delà du voile. C'est une encre qui me ramène au bercail, à la bergerie, qui me ramène devant le trône de Dieu, dans la vie éternelle. Et il nous est dit que nous devons la saisir. Les disciples la saisissaient, ils la prenaient, ils la chérissaient dans leur cœur. Romains 8, verset 18. Paul dira, et ça je trouve que c'est super dur, mais il nous encourage, il dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » On l'a chanté ce matin, une gloire inestimable qu'on a du mal à imaginer. Et on pleure ici-bas, on pleure. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps avant d'avoir Julia. J'ai pleuré sur des deuils, j'ai pleuré. Et on a tous pleuré, on pleure énormément. Mais les souffrances d'ici-bas n'ont rien à voir avec la gloire à venir. C'est dur, c'est dur. Hier soir, je discutais de ma prédication avec Claude et on était, on disait, mais c'est dur parce que quand on pense à des situations de vie, c'est dur. Les souffrances, les persécutions, ce qu'on entend, les abominations, c'est tellement dur. Mais la gloire de Dieu effacera toutes ces choses. Toutes les choses premières seront passées et on rentrera dans des choses nouvelles. Il est même parlé de Moïse. Moïse qui était dans la cour de Pharaon, qui avait le droit aux grandes richesses d'Égypte, dira qu'il préférait saisir l'opprobre de Christ afin de participer à sa gloire. Quand Alex parlait la semaine dernière du renoncement, on renonce à des choses ici-bas, mais pour une gloire suprême avec Christ. Soyons encouragés ce matin. Mais le problème, c'est que parfois dans nos vies, eh bien, on a des doutes, on peut avoir des doutes. Et peut-être que ce matin, je te parle et tu dis, bah oui, mais moi, bah je ne sais pas en fait si je suis sauvée, pas sauvée. Parfois, eh bien, je chute et je retombe dans les péchés, je pensais que c'était réglé. Et finalement, ça continue, etc. Le Seigneur est bon, nous sommes sauvés, Éphésiens, chapitre 2, versets 6 à 9. Nous sommes sauvés par grâce. Non pas par nos œuvres on aura des récompenses, mais ça nous glorifie en rien. Il nous a ressuscités ensemble et nous fait asseoir ensemble dans les cieux célestes, en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Notre vie éternelle, ce qui est préparé d'avance par notre Père céleste, c'est en Jésus-Christ notre assurance de cette grâce divine. Amen. On aime bien, comme je disais tout à l'heure, préparer nos vacances, construire nos maisons, prévoir de belles choses. Nous avons notre grand Dieu, notre Père céleste, qui a préparé un royaume céleste, majestueux, glorieux, par grâce. Par grâce. Pas parce que nous faisons des choses pour lui ici-bas. Juste par grâce. Par grâce en Jésus-Christ, mort sur la croix, crucifié, élevé, crucifié, son sang versé pour nous. Alléluia. Je suis heureuse de savoir que c'est par grâce, parce que si ça dépendait de nos œuvres ou de l'état de nos cœurs, un jour le royaume de Dieu serait somptueux et le lendemain ce serait que de la poussière, ce serait à jeter à la poubelle. Mais non, le royaume de Dieu règne parce qu'il est soutenu dans sa grâce au travers de Christ. Amen. Amen. Et c'est pas un peut-être que oui, peut-être que non. Nous sommes sauvés. Tu es enfant de Dieu. Et la parole de Dieu dit, il faut que vous sachiez, j'en dirais, il faut que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Ce matin, nous avons la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen. Alléluia! Nous sommes sauvés, Christ est notre espérance. Alors quand le doute vient, quand les combats viennent, nous sommes appelés à revêtir le casque du salut. Le casque du salut, le casque pour protéger nos pensées, pour croire que nous sommes pardonnés entièrement. Et le pardon est encore là aujourd'hui, jour après jour, parce qu'ici-bas, nous sommes en perfectionnement. Nous sommes appelés à grandir, à mûrir. Oui, nous chutons, oui, nous avons des combats, mais nous sommes enfants de Dieu. C'est pas un jour peut-être que oui, peut-être que non. C'est nous sommes enfants de Dieu. Tu as été racheté au prix de Christ sur la croix. Je suis moi, Élisabeth, rachetée au prix de Christ sur la croix. Vous imaginez ? Alors oui, peut-être que parfois nous chutons, peut-être que tu as encore des combats, mais comme Fred le disait, on a un Dieu bon, un Dieu qui est majestueux, qui est fidèle, qui est miséricordieux, et il va t'aider à résister, à être victorieux dans ton péché, parce que tu es son enfant. Et c'est pas parce que tu retombes que tu n'es plus son enfant. Tu es l'enfant de Dieu. Tu as une identité. Amen. Et rien de plus solide que d'avoir cette vie éternelle en Christ. Sacrifice immuable. Et je vous laisserai, je vais conclure avec ce verset 1 Jean, chapitre 5, verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils, Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Un seul chemin, Christ. Mais en lui, nous demeurons le véritable, le Dieu véritable. Le monde s'ébranle, le monde part complètement en vrille. Mais le véritable, le solide, le vrai, le immuable Christ, notre joie en lui sera parfaite. Notre joie en lui sera parfaite. Amen. Je voudrais finir ce message où je vais vous inviter à, on va se lever, et je voudrais vraiment finir par la prière. Et peut-être que ce matin, pour certains d'entre vous, eh bien, c'est compliqué de saisir tout ça, compliqué de saisir dans notre intelligence, avec votre intelligence, les choses de là-haut. Et ce matin, je vais commencer par prier pour ça, que le Seigneur puisse encore, et pour chacune de nos vies, nous aider, Seigneur, aide-nous. Aide-nous à saisir, comme tes disciples ont saisi, l'espérance de la vie éternelle. L'espérance de la vie éternelle, aide-nous dans nos malheurs, dans nos deuils, dans nos afflictions. Aide-nous, Seigneur, aussi pour les temps à venir, les temps qui vont se passer dans les nations. Aide-nous, Seigneur, aide-nous comme les disciples à saisir la vie éternelle, à saisir cette gloire ultime. Accorde à chacun d'entre nous la révélation. Accorde à chacun d'entre nous des convictions personnelles sur la gloire qui nous attend, sur la gloire qui nous attend, sur cette gloire incommensurable, divine qui nous attend. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à espérer, Seigneur. L'espérance en toi est certaine. L'espérance en toi est certaine. Nous revêtons ce matin encore le casque du salut. Et si ce matin tu doutes, l'Éternel te dit, tu es mon fils, tu es ma fille. Toi qui t'es donné, toi qui m'as reconnu comme sauveur et Seigneur, je te dis, tu es ma fille, tu es mon fils. Reçois ce matin l'assurance de ton salut. Ne doute pas, arrête de douter de ton salut et avance avec le Seigneur. Vraiment, le Seigneur parle ce matin pour plusieurs. Arrêtez de vous demander si vous êtes sauvés ou si vous n'êtes pas sauvés. Vous avez confessé Christ, Christ mort sur la croix, Christ ressuscité, mort pour vos péchés. Vous êtes enfants de Dieu, Revêtez le casque du salut. Prenez les armes. Ne laissez pas Satan vous donner des mensonges. Ne laissez pas Satan vous retirer la joie du salut. Recevez la joie ce matin. Recevez ce matin la victoire. La victoire dans les combats. La victoire sur les péchés. La victoire sur ces addictions. Peut-être que tu traînes depuis un temps. Le Seigneur te donne la victoire. Parce que tu es son fils, parce que tu es sa fille. Alléluia. Je prie aussi pour que le Seigneur nous encourage dans l'espérance à repasser dans nos cœurs. Comme Jérémie le dira, je repasse dans mon cœur et je choisis de dire... je repasse dans mon cœur cette espérance de la vie éternelle. Je repasse dans mon cœur. Nous repassons ce matin dans nos cœurs cette espérance de la vie éternelle. Donne-nous, Seigneur, accorde-nous encore ce courage. Accorde-nous encore de saisir. Fortifie chacun d'entre nous. Fortifie-nous, Seigneur, dans cette espérance. Fortifie-nous, Seigneur. Nous avons tant besoin de toi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à nous entretenir par des psaumes, par des paroles, à nous encourager sur cette espérance divine, cette espérance de la vie éternelle. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous dans le service, à servir comme tu le mérites. À servir dans l'amour, à servir dans la vérité, que nous soyons juste motivés par l'amour, juste par l'amour. Et tu n'es pas oublieux, tu n'oublies pas tes serviteurs, tu n'oublies pas petits et grands pour récompenser là-haut. Alléluia, alléluia. Et ce matin, je veux aussi prier et encourager toute personne qui est dans ce lieu et qui n'a pas encore donné sa vie au Seigneur. Ce matin, considère les temps. Aujourd'hui, tu as encore le temps. L'horloge tourne, mais un jour, tu ne pourras plus. Quand la mort vient, ce qui est fait ici-bas est fait. Il n'y a pas de purgatoire. Il n'y a pas de seconde chance. Il n'y a pas un entre-deux. Tes choix sont pour maintenant, pour ici-bas. Quand tu mourras ou si Jésus revient, c'est fini. Il n'y a pas de remontée dans le temps. Quand Jésus reviendra, il accomplira son œuvre. On l'a lu. C'est dit. Il dit aux gens, aux âmes qui ont été persécutées d'être en repos. Ils sont dans sa présence, mais ils sont en repos parce qu'il attend que tous viennent. Et quand le temps sera venu, tout s'accomplira. Il n'y aura pas de remontée dans le passé. Considère les choses. Considère les choses ce matin. Et si tu ne comprends pas tout, demande à Dieu de t'aider. Nous avons tout par la révélation, par le Saint-Esprit qui nous aide à comprendre. Alors fais ton choix ce matin. Et si tu veux donner ta vie au Seigneur, eh bien va voir Fred, Pascaline, Christiane, Paul, Sandy, Thierry, les anciens, les responsables, et donne ta vie. Donne ta vie tant qu'il est temps. Parce qu'un jour, ce sera trop tard. Amen. Amen. Fred, je te laisse reprendre la suite.